Alors, le message, s'il faut donner un titre, je donnerai le titre Je le veux, sois pur. Et pour ceux qui connaissent la Bible, eh bien, vous savez que c'est une parole que Jésus lui-même a prononcée à l'égard d'un lépreux, n'est-ce pas? Ce lépreux est venu vers Jésus et il a dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais j'aimerais qu'on puisse saisir l'ampleur de cette question, l'importance de cette question. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que vous pensez que Jésus va dire, je peux, mais je veux pas? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Jésus de Nazareth pouvait dire, non, je le ferai pas? Mais il y avait quelque chose chez ce lépreux que Jésus percevait, c'était qu'il avait envie d'être guéri. Il a dit, moi je le veux, mais je ne le peux pas. Toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Et quand la volonté du Seigneur coïncidait avec la volonté de ce lépreux, eh bien, l'œuvre de Dieu pouvait se faire, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux. Et donc Jésus l'a guéri en disant, je le veux, sois pur. Et ce matin, le Seigneur purifie. Le Seigneur agit dans les vies de manière remarquable pour purifier, pour laver. Et ce matin, si vous avez besoin d'être purifié, d'être lavé, alors venez à Jésus. Pourquoi ne pas venir à Jésus, lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit quelque chose d'important après. Il lui a dit, ne le dis à personne ce que je t'ai fait, mais va te présenter au sacrificateur. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire maintenant et que nous ne devons pas faire maintenant que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Mais j'aimerais qu'on puisse voir dans Lévitique 14 ce que ça voulait dire et pourquoi, selon moi, Jésus lui a dit, va te présenter au sacrificateur. Et vous avez l'explication de la loi, du rituel de purification d'un lépreux dans l'Ancien Testament, vous le trouvez dans Lévitique 14. Dans ce même chapitre, Lévitique 14, vous trouvez le rituel de la purification d'une maison qui présentait la lèpre ou qui présentait une maladie dans les murs ou dans les fondations de la maison. C'est remarquablement détaillé. C'est remarquablement précis ce que le sacrificateur devait faire. Et si vous lisez dans Lévitique 14, eh bien, vous verrez quelque chose d'assez important, assez intéressant. Et ça commence ainsi, n'est-ce pas, le chapitre sur la purification. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Deux choses. On l'amènera vers le sacrificateur. Il y a quelqu'un ici qui vous a, enfin, pour chacun d'entre vous, je veux dire, il y a quelqu'un qui vous a amené à Jésus. Vous ne pouvez pas dire, voilà, ça n'a aucune importance. Oui, il y a quelqu'un qui a eu à cœur votre situation et qui vous a amené un jour à la connaissance de Jésus-Christ, qui a dit, voilà, viens voir Jésus. Viens à Jésus. Mais ce qui est remarquable ici, c'est qu'on l'amène vers le sacrificateur et le sacrificateur vient à la rencontre. N'est-ce pas? C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est qu'il attend que quelqu'un vous amène, il attend que vous fassiez la démarche de venir vers lui. Et dès qu'il voit que cette démarche est entamée, alors c'est lui-même qui vient vers vous parce qu'il sait que vous n'avez pas le droit de vous approcher de Dieu. On n'a pas le droit de s'approcher. Le lépreux ne pouvait pas s'approcher comme ça. Il était impur. Il devait crier impur pour que les gens s'éloignent, sinon il y avait contagion. Il ne pouvait certainement pas aller trouver dans le tabernacle le sacrificateur et lui dire, écoute, je voudrais te dire que je crois que je suis guéri. Est-ce que tu peux examiner et me purifier? Il ne pouvait pas faire ça. Donc le sacrificateur, il nous a dit, sortez en dehors du camp. Il sortait à l'extérieur. Et je voudrais dire que c'est là que, selon Hébreux 13, vous lirez Hébreux 13 chez vous. C'est remarquable comme chapitre. Dans Hébreux 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est mort hors de la porte, hors du camp. Et il a dit, venons à lui, hors du camp. C'est là qu'il y a le rendez-vous. Si vous pensez, si je pense que je peux m'approcher de Dieu, aller dans le lieu saint et le lieu très saint, tel que je suis, sans conscience de la misère de mon état, eh bien, je me trompe. Parce que le rendez-vous avec Jésus-Christ va être en dehors du camp. Parce qu'en dehors du camp, en dehors de la porte de Jérusalem, c'est là où il y avait une croix qui était dressée. Et c'est là où, d'une manière spirituelle, certainement pas d'une manière géographique, mais c'est là d'une manière spirituelle qu'est le rendez-vous pour la rencontre avec Jésus-Christ. C'est « Seigneur, je ne peux pas rentrer dans le camp. Je veux te rencontrer là où tu es mort, à l'extérieur. » Et c'est là où la purification va pouvoir commencer. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le rituel de purification que vous pouvez lire dans Lévitique 14. C'est que il y avait une partie du rituel qui se passait hors du camp. Et une fois que cela était passé, le lépreux était déclaré pur. Et alors, il devait aller offrir un holocauste et un sacrifice de culpabilité. Et ces animaux étaient offerts, étaient sacrifiés dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le temple ou dans le tabernacle à l'époque de Moïse. Autrement dit, la purification qui se fait hors du camp, elle donnait aux lépreux l'accès après au lieu saint. Mais il s'est passé un sacrifice en dehors du camp qui a été plus grand que celui de l'ancienne alliance, c'est le sacrifice de Jésus. Et vous savez que lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, ce n'est pas un accès dans le lieu saint qui nous était ouvert seulement. C'est un accès dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Parce que lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et quel était ce voile? C'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et si vous rencontrez Jésus-Christ à la croix du calvaire, si vous le rencontrez en étant conscient de votre état de lèpre, de votre état d'impureté, eh bien, vous le rencontrerez en dehors du camp et il va vous dire, je le veux, sois pur. Mais maintenant, va, tu peux rentrer dans le lieu très saint. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu pour offrir tes sacrifices qui ne sont pas des sacrifices comme dans l'ancienne alliance. Si vous lisez Hébreux 13, c'est le sacrifice de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire des lèvres qui prononcent le nom de Jésus en vérité. Ça ne veut pas dire des lèvres qui vont dire Jésus tout le temps. Ça veut dire des lèvres qui prononcent la personne de Jésus, ce qui sort de votre bouche. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Si les paroles qui sortent sont des paroles de malédiction, de critique, d'amertume, de colère, ou des paroles négatives, de plainte, etc., ce n'est pas la parole de Dieu. Ce ne sont pas des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est tout sauf la plainte. Il est tout sauf la critique. Il est tout sauf l'amertume. Est-ce que nos lèvres confessent le nom de Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est parce que probablement nous n'avons jamais entendu la voix de Jésus qui nous dit « Je le veux, sois pur ». Maintenant, tu peux aller dans le lieu très saint. Tu peux t'approcher du Père en toute liberté parce que maintenant je t'ai purifié. Avant, tu ne pouvais pas. Est-ce que c'est là que on a pu rencontrer Jésus? en dehors du camp. Est-ce qu'on a entendu ses paroles? Est-ce qu'il a fait cette œuvre dans notre vie? Vous savez que les lèvres, c'est pas juste ce que vous avez là, en dessous du nez. Les lèvres, c'est votre corps entier. Parce que votre corps, vos réactions, vos attitudes parlent comme des lèvres. Et ce qui sort de vos comportements, de vos actions, de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles, eh bien, c'est ce qui va parler aux gens, soit en les faisant fuir, soit en les rapprochant de Dieu. Comme je dis souvent, si notre société est anti-Dieu, c'est en grande partie à cause de ceux qui sont donnés le nom de chrétiens et qui ont confessé un autre nom que le nom de Jésus. Et donc, quel était ce rituel en dehors du camp qui devait se faire? Il est extraordinaire ce rituel. C'est pas au hasard, c'est pas Dieu a dit, ben voilà, j'ai une idée, il faudrait faire ça. Tout a un sens, et c'est sûr que on ne connaît pas le sens de manière textuelle. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez largement le droit. Mais je vais essayer avec un grand respect de ce qui était enseigné à Moïse dans l'Ancien Testament et de ce que toute la Bible enseigne par ailleurs, de faire coïncider le sens de ce qui devait être fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc, le sacrificateur, en dehors du camp, allait à la rencontre du lépreux. Et s'il constatait qu'effectivement, il y avait une amélioration et que la lèpre disparaissait, eh bien, il allait faire un rituel à l'extérieur du camp, qui était la chose suivante. Il devait prendre un pot d'argile, n'est-ce pas ? Il nous a été proposé tout à l'heure, « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Tu es le potier, je suis l'argile. » Le pot d'argile ou le plat d'argile, je pense, ça n'est rien d'autre que nous. Le vase d'argile, ça n'est rien d'autre que nous. Et dans ce vase, dans ce pot d'argile, il devait faire couler de l'eau vive, n'est-ce pas ? De l'eau vive qui devait couler, et c'est dans le sens, l'eau vive veut dire l'eau pure, effectivement, mais c'était aussi de l'eau courante. C'est-à-dire, ce n'était pas de l'eau stagnante, ce n'est pas qu'il devait mettre de l'eau dans le vase, et puis c'est tout. Il devait faire couler, pendant tout le rituel, de l'eau dans ce vase. Donc je suppose que ça déborde. Ça débordait du pot. Mes amis, vous savez qui est l'eau vive. Vous savez que c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible ajoute qu'il disait ça en parlant du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire intérieurement, solennellement ce matin, je sais que l'Esprit de Dieu, cette eau vive coule dans ma vie en permanence et déborde de moi. Ça a été prophétisé dans Ézéchiel. Vous lisez, je pense que c'est Ézéchiel 47, où lorsque Ézéchiel a eu en vision le temple de Jérusalem, il a vu qu'il y avait un peu d'eau. Et ensuite ça grandissait, et ensuite c'était un fleuve qui sortait du temple. À Jérusalem, il n'y a pas de fleuve. Quelle vision étrange. Mais il y avait un fleuve qui sortait de ce temple, et ce fleuve purifiait tout ce qui passait, tout ce qui se trouvait sous son cours. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que la puissance de Dieu agit dans votre vie? Autrement dit, la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas une question de dire « Oui, je me suis donné au Seigneur il y a 20 ans, ou il y a un an, ou il y a une semaine, ou il y a un jour. » C'est ce que le Saint-Esprit coule dans votre vie, est-ce qu'il coule dans ma vie en permanence? Est-ce que cette eau vive est déversée en moi et déborde de moi? Est-ce que les gens qui me côtoient, les gens qui ont affaire à moi, est-ce qu'ils reçoivent de l'eau vive ou est-ce qu'ils reçoivent de l'eau amère, de l'eau sale? Est-ce que si quelqu'un a soif de Dieu, il a envie de goûter cette eau qui coule au travers de vous Il devait donc faire couler cette eau vive dans ce vase, dans ce pot, dans ce plat en argile, en terre. Mais il ne devait pas faire ça seulement, il devait prendre aussi, il devait avoir prévu certaines choses dans ce rituel. Et un des éléments importants, c'est qu'il devait avoir prévu deux oiseaux vivants. Vous savez que les oiseaux étaient offerts en sacrifice dans l'Ancien Testament aussi. Par exemple, Jésus et Marie, lorsqu'ils sont venus pour la purification après les 8 jours après l'accouchement, eh bien, ils sont venus avec deux oiseaux, ce qui nous indique qu'ils étaient pauvres. Parce que dans l'Ancien Testament, la purification après un accouchement devait impliquer un agneau et un oiseau, si je ne me trompe pas. Je sais en tout cas que c'était au moins un agneau. Et il est précisé dans l'Ancien Testament que si ils étaient pauvres, si les gens sont pauvres, ils peuvent amener deux oiseaux. Et donc c'était le cas de Marie et de Jésus, ils étaient pauvres. Ils ont amené deux oiseaux. Mais là, il ne s'agissait pas du tout d'un rituel pour la purification de la lèpre. C'est totalement différent. Mais ici, il y a une instruction pour ceux qui sont lépreux. Et il fallait qu'ils ramènent deux oiseaux. Ou il fallait que le sacrificateur, plutôt, fournisse deux oiseaux. Et un de ces oiseaux était égorgé. Et le sang devait être versé sur l'eau qui coulait dans ce vase d'argile. Évidemment, pour nous qui sommes occidentaux modernes, on n'aime pas voir le sang, etc. Mais sachez que c'était le rituel des sacrifices que Dieu avait instauré pour le peuple d'Israël. Mais quelle est l'importance? Eh bien, évidemment, on comprend que les oiseaux étaient les mêmes, de même nature. Et il y en a un qui a pris la place de l'autre. Et il y a deux choses qui parlent là. Parce que tout cela se passait en dehors du camp. Et c'est en dehors du camp que Jésus est mort à votre place. Est-ce que vous sentez l'importance de ce que ça représente? Parce que c'est vrai qu'on vit très bien sur la terre pour l'instant. C'est vrai que en quelque sorte, Dieu ne nous trouble pas trop, c'est-à-dire il ne nous travaille pas trop. On est confortable en Occident. C'est pour ça qu'on est des chrétiens qui avons peu la foi. C'est pour ça qu'on ne voit pas des miracles dans nos vies. C'est pour ça qu'on ne voit pas des miracles autour de nous. Quand je parle de miracles, je parle de conversion radicale. Mais il y a des endroits où les gens prennent conscience de ce que ça veut dire que quelqu'un est mort à leur place. Parce qu'il y a une vérité qui est dans la Bible et que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça ne change rien dans la réalité de cette parole qui est dite. C'est qu'un jour, nous allons comparaître devant Dieu et que si nous ne sommes pas prêts à comparaître devant Dieu, eh bien, il n'y a pas d'espoir pour notre éternité. La Bible nous parle clairement de l'enfer et du ciel. Sur quel chemin êtes-vous? Et quand vous prenez conscience que vous êtes sur le chemin de l'enfer et que vous voyez que Jésus, que le message de l'Évangile, c'est un message de libération, que voilà, Jésus a pris votre place et il a dit, voilà, tu dois mourir, le salaire du péché, c'est la mort, donc tu dois mourir, mais je prends ta place. Je prends ta place. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est condamné à mort dans un pays et que quelqu'un lui dit, mais je prends ta place. Mais si je faisais une allégorie, c'est le juge qui devrait dire, voilà, je te condamne à la peine de mort. Mais j'ai compassion de toi et je t'aime, alors j'irai à la peine de mort à ta place. C'est ça le sens, est-ce que vous saisissez ce que ça peut représenter? Jésus a pris notre place, il a été en quelque sorte cet oiseau qui a été égorgé pour que l'autre ait la vie. Vous allez voir ce qui va arriver à l'autre oiseau. le sang de l'oiseau sacrifié était répandu dans l'eau vive, dans ce vase. Vous êtes le vase d'argile. Est-ce que vous avez l'eau vive qui coule? Est-ce que vous avez le sang de celui qui est mort à votre place? Ça aurait dû être vous. Il y a quelqu'un qui est mort à votre place. Est-ce que le sang de Jésus coule en vous en permanence? Est-ce que l'eau du Saint-Esprit transporte ce sang dans tous les domaines de votre vie et vous fait déborder même? Ça déborde de vous pour toucher les autres. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, c'était ce qu'il devait faire. Et l'autre oiseau, eh bien, il devait subir, mais attention, son sort était extraordinaire par rapport à celui de l'autre. Il devait subir quelque chose qu'il ne devait pas comprendre. Mais vous allez me dire, c'est un oiseau, donc ce n'est pas un problème. Le problème, effectivement, c'est que les oiseaux ne se posaient pas de questions, ils se laissaient faire. Et combien je pense quelquefois que le Seigneur doit se dire, si seulement je m'étais arrêté aux oiseaux, mais je suis allé jusqu'à l'homme. Et là, on a des problèmes énormes. L'oiseau devait se faire baptiser. Pas par aspersion, par immersion. Pourquoi le baptême est-il par aspersion? Dans certaines églises. Le baptême était par immersion. L'oiseau devait être trempé dans l'eau vive et dans le sang de son congénère qui était mort à sa place. Il devait être baptisé dans l'eau et dans le sang. La première épître de Jean nous dit que Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Et voilà une explication probable de ce sens mystérieux, de ce passage mystérieux dans 1 Jean, où il est dit que Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Il ne s'agit pas du baptême par immersion que nous faisons ici. Ça, c'est que la symbolique, la représentation de ce qui se passe dans la purification. Mais est-ce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit ? Et dans le sang de Jésus. Voilà le baptême qui doit être notre vie, où on est entièrement rempli, lavé, immergé par ce Saint-Esprit. C'est pas oui, j'ai reçu, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Certains racontent cette expérience extraordinaire qui leur est arrivé quand ils ont reçu, selon eux, le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de repentance, où l'on se sent pardonné, où on entend la voix de Jésus qui dit « Je le veux, sois pur, reçois mon Esprit Saint », qui vient remplir notre vie, qui vient nous changer, qui vient nous transformer, qui vient modifier notre vie, certes, pas forcément totalement de manière radicale, c'est un début d'un processus aussi qui doit continuer. Mais est-ce que vous êtes venu à Jésus? Ce qu'a dit Emmanuel Blavoud tout à l'heure était remarquablement en cohérence avec ce message, sans concertation. Donc l'appel que vous avez entendu tout à l'heure, vous le prenez pour vous, vous retenez ça. Parce qu'ici, c'est Jésus qui nous demande de venir le rencontrer, là où il est mort, en dehors du camp, pour pouvoir déverser dans ce vase d'argile que nous sommes, son eau vive. C'est lui-même l'eau vive, c'est le Saint-Esprit et le sang qui a coulé. Et l'oiseau, une fois qu'il était plongé, n'est-ce pas, eh bien, il ressortait et on devait l'amener à la campagne. Et il devait s'envoler. Le problème, mais c'est la même avec moi, c'est que les chrétiens sont assis sur les chaises. Mais c'est bien parce que le dimanche matin, vous restez debout. C'est très, très gentil, c'est très touchant. Vous restez debout pour les chants quand il y a plusieurs chants. Mais on devrait voir des chrétiens qui volent. Parce qu'ils sont tellement libres. Et c'est ça que cet oiseau ressentait, cet oiseau avait peur tout le temps. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec moi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je suis prisonnier des mains de ce sacrificateur. On me plonge dans l'eau, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Est-ce qu'on va me noyer, même s'il ne sait pas ce que c'est la noyade? Il a peur. Mais là, on le libère, il est libéré. Et c'est le message de Jésus-Christ, au même endroit où il a dit: Venez à moi si vous avez soif, venez à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Il a dit aussi que si vous connaîtrez le Fils, vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, je suis libre, libre. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur en tant qu'adolescent, c'est comme si un fardeau était tombé de mes épaules. J'ai pensé, il va revenir ce soir, ce fardeau, ou demain. Et j'avais peur. Je me suis dit, pourvu qu'il ne retombe pas. Mais c'est extraordinaire parce qu'il n'est pas revenu. J'ai donné ma vie au Seigneur en 77, même année que Alex. Qui est-ce qui a donné sa vie au Seigneur en 77 encore ici? Personne? Oh, c'était une belle année, 77. Voilà, 7-7, oui, c'est parfait. Le Seigneur libère. Il libère, il donne la liberté. Mais en préparant la prédication, j'ai pensé, mais Seigneur, toi tu es mort, mais tu étais l'agneau de Dieu. Tu n'étais pas l'oiseau de Dieu. Alors que représentent ces deux oiseaux? Et je pense qu'en préparant, le Seigneur m'a dit, c'est le moi. Et j'étais touché que Étienne confirme ça sans savoir de quoi il s'agissait. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 6 que nous sommes morts avec Christ. Donc nous sommes morts hors du camp et nous sommes ressuscités avec Christ. La mort de l'oiseau, c'est la mort de ce moi, de cette nature, de ce que nous étions. C'est cette mise à mort. De sorte à ce que nous devenions une autre nature qui est libérée, qui est celle de voler. C'est ça qu'un oiseau doit pouvoir faire. C'est pour ça qu'il a été créé. Et Dieu a créé les hommes, pas pour qu'ils soient liés dans des chaînes, pas pour qu'ils soient mis à mort. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais il a créé l'homme pour qu'il soit libre. Et c'est là ce que Dieu veut vous faire ce matin, si vous avez besoin d'être libéré. Il veut vous faire prendre conscience que lui a pris la place, qu'il veut vous libérer. Cet oiseau devait être baptisé avant d'être libéré. Il ne s'agissait pas, ici, il ne s'agit pas d'un baptême dans l'eau physique, dans l'H2O. Il s'agissait d'un baptême dans le Saint-Esprit qui est symbolisé. Naturellement, les sacrifices qu'on doit offrir maintenant, c'est les lèvres qui confessent son nom. Et si vous êtes touché par le baptême, par la question du baptême, eh bien, vous venez nous voir, n'est-ce pas, en nous disant, ben écoutez, moi je veux me faire baptiser. Parce que j'ai connu ce que ça veut dire que d'être pardonné, que d'être libéré. Et c'est là une confession devant les gens, devant les autorités. Oui, je confesse. Le nom de Jésus-Christ. On a une personne qui a demandé le baptême, donc la liste est ouverte. Mais ne sachez que c'est solennel et que c'est pour la vie qu'on s'engage. C'est pas seulement l'oiseau qu'on baptisait. Il y avait aussi trois objets qui devaient être baptisés aussi. Il y avait un des objets, c'était du bois de cèdre. Le cèdre du Liban, oui, c'est ça, le bois de cèdre, qui devait être baptisé, qui devait être trempé dans l'eau. Ce n'est pas écrit baptisé, mais dans l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, c'était trempé dans l'eau, mis dans l'eau, mais baptisé, c'est le terme grec, n'est-ce pas, pour trempé dans l'eau, mis dans l'eau. Du bois du cèdre, pourquoi, Seigneur, tu demandes à Aaron de prendre un morceau de bois de cèdre, de le mettre avec l'oiseau dans le sang et dans l'eau vive. Eh bien, le cèdre, c'est un arbre majestueux qui vit plusieurs millénaires si on le laisse tranquille. Il vit plusieurs milliers d'années, il ne pourrit pas. Et ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que ce bois de cèdre qui est mis dans l'eau, c'est la nouvelle nature que Dieu veut vous donner. Oui, c'est dans le rituel de purification que ce bois de cèdre était nécessaire. Il y a d'autres rituels qui impliquaient les autres éléments et pas le bois de cèdre. Mais ici, il s'agit de la purification. Or, le bois de cèdre, c'est le bois qui ne pourrit pas. C'est pour ça qu'il dure des millénaires. Est-ce que vous avez reçu cette nouvelle nature? Est-ce que Dieu vous a donné cette nature nouvelle qui n'est plus comme avant? Ou vous pouvez dire, oui, je sais qu'il m'a transformé. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question d'adhésion. Venir au Seigneur, ce n'est pas dire, voilà, maintenant je vais être membre de l'église évangélique de tel endroit ou tel autre endroit. Non, c'est ce que Dieu vous a donné, cette nouvelle nature en Jésus-Christ. Et ça se passe en dehors du camp. Il vous donne cette nature qui ne se corrompt pas, cette nature éternelle. Je vais terminer rapidement avec les deux autres objets. Il est dit du cramoisi. Alors c'est traduit du cramoisi, mais la vraie traduction c'est du fil cramoisi. Le sacrificateur devait ramener un fil cramoisi, de couleur rouge, donc cramoisi, et il devait le mettre dans l'eau également. Eh bien, le fil cramoisi, c'est utilisé dans tous les vêtements du sacrificateur. Les vêtements des sacrificateurs étaient en lin, et ceux qui le recouvraient, ainsi que le tabernacle, étaient faits de fin lin retors, du fin lin, et vous lisez dans Apocalypse 19, que le fin lin, c'est la justice des saints. Et c'était tissé avec des fils cramoisis de fin lin. Mais il y avait aussi des fils bleus et des fils pourpres pour les vêtements. Ici, dans le sacrifice de purification, c'était juste le fil cramoisi. Le fil cramoisi, là aussi, en réfléchissant sur ce que ça peut représenter, eh bien, on a un élément extraordinaire, n'est-ce pas, avec Rahab. Vous vous souvenez de Rahab. Cette femme qui était lépreuse, non, elle n'était pas lépreuse physiquement, mais dans sa vie, puisqu'on sait qu'elle était prostituée. Peut-être vous avez fait des choses qui vous condamnent, mais ce sont les hommes qui vous condamnent. C'est le diable qui vous condamne. Jésus ne vous condamne pas. Il sait que c'est grave. Il sait que ça mérite la peine de mort. Mais il dit, j'ai pris ta place. J'ai pris ta place. Et il intercède pour toi. Si tu te repens et si tu viens le trouver en dehors du camp, au pied de la croix, pour lui demander pardon et confesser ton péché. Rahab, cette femme, était impure. Mais elle a demandé, lorsque les peuples d'Israël allaient envahir la terre promise, elle a dit que je sois sauvée, moi et ma famille. Ils lui ont dit, alors tu mets un fil rouge, tu mets un ruban rouge par la fenêtre et tu seras sauvée. Le fil cramoisi, c'est le message du salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé parce que ce fil rouge m'a été donné par le sacrificateur. Et vous savez, je vais aller vite là-dessus, mais les vêtements du sacrificateur étaient tissés de ces fils rouges, de ces fils cramoisis. Ils étaient tissés aussi de fils bleus, je vous ai dit, de fin lin retors. Eh bien, le bleu symbolisait les commandements de Dieu. On voit ça dans les habits. Il était demandé d'avoir du bleu en bas des vêtements, sur les franges, pour que quand ils regardent, et aussi je pense là, quand ils regardent leurs vêtements, eh bien, ils pensent aux commandements de Dieu. c'est les commandements de Dieu. Les vêtements des sacrificateurs et les tapis qui recouvraient le tabernacle, la couverture du tabernacle, étaient tissés du message du salut et message des commandements de Dieu. Et vous savez ce que donne le mélange parfait du cramoisi et du bleu? Ça donne la couleur pourpre. Je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas artiste comme ma femme en peinture, mais je l'ai lu cela, que le meilleur moyen d'avoir du pourpre, c'est de mélanger du cramoisi et du bleu. Et les fils étaient faits en pourpre, en bleu et en cramoisi. Parce que c'est ça le message de l'Évangile, c'est que les commandements de Dieu ne sont pas donnés seuls. Les commandements de Dieu se mélangent avec ce message du salut qui fait qu'on a quelque chose de nouveau qui s'applique dans notre vie. Et ici, en tout cas, le sacrificateur devait prendre un fil cramoisi. Et c'est comme cette femme Rahab qui était sauvée par ce fil cramoisi. C'est le message du salut. Est-ce que vous avez ce témoignage dans votre vie? Oui, je sais que j'ai reçu ce fil. Je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis passé en l'espace de quelques secondes d'une certitude que je n'étais pas sauvé, une certitude que j'étais perdu, une conscience de mon état de perdition à une certitude que j'étais sauvé. C'est le miracle du fil rouge, du fil cramoisi, c'est le miracle de l'Évangile. Ce matin, c'est possible pour vous, c'est possible pour chacun d'entre nous. Le dernier élément, c'était de l'hysope. Une branche d'hysope. Vous savez, c'est très joli, l'hysope. Mes deux plantes préférées sont le lin et l'hysope. Mon arbre préféré, c'est l'olivier. Bon, c'est rien à voir avec la prédication. Mais l'hysope, c'est ce qui avait été utilisé, ce qui avait été commandé au peuple d'Israël pour la première Pâque. Ils devaient mettre sur les linteaux de la maison le sang de l'agneau avec l'hysope, avec une branche d'hysope. Eh bien, je voudrais vous demander si dans votre vie, ce qui exprime sur votre corps, sur votre maison spirituelle, ce qui exprime le sang de Jésus-Christ, ce qui permet de voir à l'extérieur, non pas seulement aux hommes et aux femmes qui vous voient, mais aussi aux autorités spirituelles, comme dans la première Pâque en pays d'Égypte, est-ce que ce qui permet d'exprimer que vous appartenez à Jésus, que vous êtes couvert par le sang de Jésus, par sa mort. Est-ce que cela vous l'avez? Est-ce que ça vous a été donné? Est-ce que ça faisait partie de cette purification? Le lépreux, une fois pardonné, une fois purifié, pouvait aller présenter son sacrifice dans le lieu saint. Pour nous, nous avons non seulement le lieu saint, mais le lieu très saint qui nous est ouvert. Alors, est-ce que ce matin, on va aller en dehors du camp pour rencontrer Jésus? En tout cas, c'est là où je veux me trouver. C'est là où je dois me trouver très régulièrement. Parce que c'est ça qui me permet de m'approcher du Père. Merci.